C'est vrai parce que c'est aussi l'Antiquité qui va venir vers nous par certains côtés. Et puis on va s'intéresser, ben voilà, à ces auteurs qui s'intéressent à ces époques lointaines et qui essayent de nous les faire revivre. J'ai commencé à Christina Rodriguez. On va commencer avec vous parce que moi, il y a quelques années, par hasard en plus, c'était même pas lié aux Imaginales, mais je suis tombé sur un polar qui se passait dans l'Antiquité, avec un personnage qui s'appelle Caeso, le prétorien. Et moi, je voulais savoir comment il est né, ce personnage. Pourquoi avoir un jour eu l'idée d'aller implanter un polar dans l'Antiquité romaine?
J'avais l'habitude de faire des romans historiques plus classiques, c'est-à-dire des romans historiques qu'on pouvait voir un petit peu partout. Et c'est vrai que ça faisait très 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 longtemps que j'avais envie de mélanger un petit peu le polar et l'historique, puis j'étais fan de la collection 10-18 et de Liz Peters, de Clark Kettfeld.
Les grands détectives.
Et ça faisait très très longtemps que j'avais envie d'en faire un, et je me suis lancée en créant ce personnage que j'ai voulu sexy.
Et pas seulement lui d'ailleurs, parce qu'il y a aussi son animal de compagnie, indissociable.
Il est indissociable, parce qu'il a un léopard apprivoisé qui s'appelle Io, qui se prend pour un chien, donc c'est un peu le personnage qui est récurrent, et puis surtout qui met un petit peu tout l'humour au niveau de la série.
Alors on reviendra sur le personnage en lui-même, mais en quoi est-ce que le cadre de la Rome du 1er siècle de notre ère peut être intéressant justement pour y implanter un roman et qui plus est un polar?
Parce qu'on est en fait à la fin du principat d'Auguste, donc on est à l'époque des Tibères, Caligula est encore adolescent, donc il n'est pas encore empereur. Et c'est vraiment le début de l'Empire. Il y a tout un tas de possibles. On ne sait pas encore ce qui va vraiment donner l'Empire romain, on ne sait pas encore si les institutions mises en place par Auguste vont persister, si les mentalités vont évoluer. On ne sait pas. On est vraiment à un carrefour en fait, de la civilisation, et c'est là que c'est très intéressant pour implanter justement une intrigue et un personnage.
Alors on va y venir évidemment tout au long de ce café littéraire, et puis on évoquera aussi le baiser du banni, où il y a là encore des interventions, cette fois-ci dans notre siècle contemporain, de personnages. On en parlera tout à l'heure. Béatrice et Gémard, même question que pour Christina, mais vous, c'est dans l'Égypte antique que vous nous emmenez. Alors là, on n'est plus au 1er siècle de notre ère, on est encore beaucoup plus loin en arrière.
Oui, mais il fonctionne là.
Oui.
Il faut être en affinité avec une époque pour écrire dessus de manière enthousiaste et efficace. C'est vrai que la Rome antique, je naviguerais très mal dedans, alors que l'Égypte m'a toujours fait rêver, comme on l'a abordé hier lors du café littéraire. C'est une civilisation pour laquelle j'ai eu un coup de cœur à 11 ans, hein, à l'âge de la 6e. Pour ma génération, c'était étudié à l'école. Et je trouve que ça offre plein de possibles, c'est très dépaysant bien sûr pour le lecteur, mais ça offre aussi plein de contraintes, hein, notamment dans le cadre du polar. Le polar antique a des tas de contraintes pratiques qui sont des difficultés pour l'auteur. Je ne sais pas si le lecteur s'en rend compte, parce que les temps de trajet étaient très longs, parce que les moyens de communication étaient sommaires, parce que bien sûr tout ce qui est embryon de médecine légale n'existait pas, donc pour que ce soit un meurtre, s'il n'y a pas un coup de papyrus fiché dans le cadavre, c'est pas évident de savoir que c'est un assassinat. Enfin, voilà.
D'ailleurs, dans l'œil de Seth, c'est un peu une des clés, c'est que finalement il y a cette ambiguïté qui plane, parce qu'il y a une mort, mais on va dire que c'est pas aussi évident que ça éventuellement.
Mais oui, à part l'arme blanche ou alors le témoin qui voit que c'est un assassinat, si on trouve un corps et qu'il a été empoisonné, il y a des traces sur la langue, il faut qu'il y ait quelque chose de visible, parce que les moyens de la médecine de l'époque, évidemment, c'est pas les séries américaines auxquelles les lecteurs sont habitués aujourd'hui.
Jocelyne F. Keller, alors vous nous emmenez, encore là, on est encore dans un cadre différent, puisque on est dans le voyage temporel. Vous envoyez des jeunes gens d'aujourd'hui à travers les âges, et en l'occurrence dans un des volumes de Via Temporis, vous les envoyez dans la Rome antique.
L'épisode numéro 3 se passe effectivement dans l'Antiquité romaine. Alors, il faut savoir que Via Temporis, c'est une série qui est écrite par deux auteurs. Moi, j'ai écrit le premier épisode et le troisième. Le deuxième, donc, a été écrit par une jeune auteure qui habite à Metz, et qui s'appelle Aurélie. Et Aurélie, à la fin du deuxième épisode qui se passait au Moyen-Âge, au temps des Templiers, m'a laissé en plan, entre guillemets, en ne résolvant pas tous les mystères de l'épisode, et disons que j'ai dû faire avec les contraintes qu'elle me laissait à la fin du deuxième épisode. Et le troisième, on avait décidé avec l'éditeur qu'il porterait sur l'Antiquité romaine, Et donc tout le boulot, tout l'enjeu a été de trouver un moyen de tirer un lien entre le Moyen-Âge et l'Antiquité romaine de manière aussi fluide et plausible que possible, sachant que le point de départ, enfin le point qu'elle m'avait laissé, était au Portugal en plus. Voilà, vous voyez un peu la dimension un peu compliquée. Donc il a fallu que je trouve une idée pour... je vais faire très vite pour le laisser dans la zone, mais pour emmener les héros depuis le Moyen-Âge et depuis des actions qui se passaient au Portugal au Moyen-Âge vers la Rome du 1er siècle de notre ère. Juste deux pistes pour vous indiquer un peu comment on a fait. Déjà, j'ai cherché des personnages qui pouvaient jouer des rôles clés, et il y en a... Alors, d'emblée, on a évacué tout ce qui était Jules César, toute cette partie-là, parce que c'était un peu trop Astérix et Obélix, et que ça a été déjà traité mille une fois, et moi, ça ne m'intéressait pas particulièrement. Il n'y avait plus d'autres empereurs qui m'intéressaient, et notamment Néron, et je me suis dit, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec Néron ? Et j'ai cherché autour de lui des personnages clés, et j'ai trouvé que le fameux philosophe Sénèque, en fait, sa famille venait de Cordoue, qui s'appelait Cordoba à l'époque, dans l'Espagne romaine. Donc déjà, je me rapprochais du Portugal. Et donc, j'ai réussi à tirer un lien entre le Portugal et Cordoue, et après de Cordoue jusqu'à Rome. Et après, l'aventure commence.
Est-ce que c'est quand même assez différent, puisque on a commencé avec deux romans ou deux auteurs qui, eux, ont vraiment implanté à 100% leur histoire dans une époque. Là, vous, c'est un petit peu différent quand même, parce que c'est... des époques qui se percutent, qui viennent entrer en collision.
Alors il y a quand même une cohérence, c'est-à-dire chaque roman a sa propre période. Après, ce qui rentre en collision, c'est qu'effectivement on va projeter nos héros, c'est le système classique du voyage dans le temps, dans une période qu'ils ne connaissent pas et qui pour eux est aussi étrange que d'aller sur la planète Mars.
On reviendra justement sur ces codes qui viennent se rencontrer. Philippe Ward. Là, c'est l'inverse. On était dans un voyage dans le temps. On partait d'ici et on allait dans le passé. Avec la serre, le détective des dieux, c'est le passé qui vient presque à nous et qui se rapproche de nous, finalement.
Mais oui, c'est le passé qui reste, qui devient le présent, en quelque sorte. Peut-être que le passé qui n'évolue pas. C'est-à-dire que nous, c'est notre Égypte qui a évolué, mais qui est restée aussi une Égypte pharaonique. Donc, c'est 1935. Il y a toujours Pharaon. Il n'y a pas trois pyramides sur le plateau de Gizeh. Il y en a neuf. Il y a encore tous les temples qui sont en activité, ne sont pas en ruine, Pharaon gouverne, mais il y a les voitures, il y a les avions, il y a la TSF, il y a tout ce monde moderne qui est là et qui côtoie le monde antique.
Jusqu'au tourisme, hein, puisque la serre a pour quartier général l'hôtel Shiram.
Voilà, jusqu'au tourisme, parce que le tourisme égyptien, je dirais, devait même exister à l'Antiquité. Voilà, l'Égypte a toujours attiré les touristes, quels qu'ils soient, et donc en 1930, en plus, c'était une grande période touristique, mais plutôt anglo-saxonne.
C'est une fascination pour l'Égypte antique qui permet de donner naissance à ce cadre un peu particulier.
Oui, comme disait Béatrice, moi c'est pareil, c'est la sixième, c'est écrit sur Toutankhamon, l'Égypte est devenue une de mes passions. Je dirais même pendant longtemps, elle était ma passion. Pour vous donner une idée, je dois avoir de 1000 livres, revues, romans sur l'Égypte dans ma bibliothèque. C'est devenu vraiment, j'étais presque une obsession. Je suis allé une fois, j'ai passé trois semaines en Égypte, comme je disais aux autres. J'ai eu la chance de fêter mes 20 ans à Alexandrie. Ça restera toujours le moment inoubliable pour moi. J'ai 30 ans, je sais pas où j'étais, mais les 20 ans, j'étais au cœur de l'Égypte. Donc c'est toujours une passion. Et dans la serre, il y a pratiquement toutes mes passions qui sont là, à la fois le polar de 1930, l'Égypte, la fantaisie. La seule passion qu'il n'y a pas, c'est mon accent. Et
tu as vu les papillons de la jeunesse à Alexandrie?
Oui, je les ai vus parce qu'on est obligé de la chanter là. J'ai même si je ne suis pas fan de la phrase, quand vous y êtes, quand vous êtes au bord de mer, vous avez ce refrain qui revient et c'est affreux.
Je suis désolé, je ne referai plus, promis.
Non, mais en plus, c'est vrai, je l'ai chanté.
Évidemment, on va revenir et aussi pourquoi justement ce choix de ne pas avoir vraiment joué le jeu de l'Égypte antique à fond, mais de l'avoir rapproché.
Oh, mais là, ça va être simple. Je vais dire que Christian Jacques m'a cassé tout. Donc c'est vrai que c'était dit au départ. Mais c'est vrai que alors on a dit on va prendre 1930, au moins là, il n'est pas venu.
Christian, on a un tout petit peu présenté KSO, donc ce prétorien. D'abord, c'est quoi un prétorien? C'est une question. Hein.
Bon, on va faire simple parce qu'on n'est pas là pour faire un cours d'histoire. On va dire que c'est l'équivalent de la carte républicaine maintenant pour le président de la République. C'est-à-dire, c'est vraiment c'était une entité militaire, mais qui s'occupait en fait plus particulièrement de l'entité impériale et de la famille impériale entre guillemets. C'est-à-dire du principe.
Et donc, ce garçon, il a quand même une fâcheuse tendance à se mettre dans les ennuis assez rapidement.
Dans les emmerdes, hein, tu peux le dire.
Oui, très, très rapidement. Et à se retrouver à devoir résoudre des histoires pas toujours assez sordides, même parfois, qui l'emmènent dans des coins où on n'irait pas franchement traîner juste comme ça. Il y avait aussi l'envie, justement, de montrer au-delà. Je vais être le 28e depuis le début du festival à parler de l'image d'Épinal, mais c'est comme ça, de l'image d'Épinal de la Rome antique, de aussi montrer un peu les à côté, les côtés plus sombres.
Oui, mais toujours sans lasser, c'est-à-dire moi je suis là pour vous raconter des histoires et pas pour vous faire un cours d'histoire. Donc si vous arrivez, si vous apprenez quelque chose, si vous arrivez à, dans les petits détails que j'ai profité de ci, de là, justement pour faire une idée de la Rome antique, tant mieux. Sinon, allongez-vous, éclatez-vous, brillez avec les bêtises d'Io, et puis c'est tout. Mais non, parce que c'est très impressionnant.
Parce qu'on est effectivement quand même dans la découverte aussi d'une culture, pas seulement d'une civilisation finalement, on est aussi dans ce que vivaient ces gens au quotidien.
Oui, parce qu'on a tendance à se dire, mais les Romains étaient comme nous. Non, c'est pas vrai. Les Romains n'étaient pas comme nous, c'était une culture très, très différente. Une façon, une vision des choses qui n'était pas du tout la nôtre. Même si on a très envie de se dire, on est tous latins, on est super proches, tout. Déjà, rien que latin, moi en tant qu'espagnol, je vais vous dire, quand les Français me disent qu'ils sont latins, ça me fait rire. Quoi.
Même Philippe avec son accent.
Moi, je suis proche de l'Espagne, je suis juste à côté. Je suis juste à frontière.
Béatrice et Gémard, même chose, il y a donc, on a bien compris, cette passion. Pour l'Égypte, mais là encore, ça veut dire que il faut nourrir. Il n'y a pas le choix, comme on va le voir avec Philippe, de faire intervenir du surnaturel, de faire intervenir les divinités au sens
oui, ça
propre.
C'est quelque chose auquel j'ai réfléchi, bien sûr, en le faisant. Et bon, il y avait, je voyais la bande dessinée Papyrus, on voit Osiris, tout ça. Et je me sentais pas de faire ça. Je voulais vraiment faire une Égypte réaliste. Alors, de temps en temps, il y a des événements naturels qui sont interprétés. De manière magique, parce que la religion égyptienne est très proche de la magie, de la Eka, voilà, c'était vraiment intégré à leur religion. Mais le lecteur peut considérer que. Voilà,
ça se voit dans la médecine aussi.
Oui,
dans
oui,
l'œil de Seth, il y a un moment où justement on en parlait de savoir de quoi peut bien être mort un des personnages.
Oui, tout à fait.
Et il y a cette interprétation assez particulière.
Oui, mais en fait, la magie égyptienne était essentiellement une magie bénéfique, une magie blanche. Après, la magie de Sekhmet, la déesse Lyon, c'est différent, mais la magie blanche était utilisée par les médecins pour contribuer à la guérison du malade. Oui. Et dans l'œil de Seth, je me suis inspirée d'une histoire d'une conspiration de palais qui a eu lieu sous Ramsès III et qui est documentée par les papyrus des procès des conjurés. Et ce qui m'a émue dans ces papyrus, c'est qu'au milieu du compte-rendu, du procès, des chefs d'accusation, des coupables, tout ce qui est paperassier comme habituellement en Égypte ancienne, le scribe cite tout naturellement du monde que les conjurés sont entrés dans le palais par magie. Donc vous imaginez aujourd'hui un compte-rendu de procès, un compte-rendu d'audience, on dirait l'assassin utilisait la magie pour faire ceci ou cela. Donc pour eux, c'était vraiment intégré à leur quotidien.
Est-ce que ça veut dire là aussi qu'on est dans un cadre qui, pour mener une intrigue, puisqu'on est quand même dans un polar, il y a cette matière, évidemment, bien différente de celle qu'on peut avoir aujourd'hui dans nos polars d'aujourd'hui, mais il y a quand même cette matière à créer des fausses pistes, à créer des intrigues, des manigances.
C'est un plus et un moins. Quoi. Le plus, c'est ce que vous dites, que ça peut aider à créer des intrigues et des manigances. Le moins, c'est aussi que ils raisonnaient quand même pas complètement comme nous. Hein. Je rejoins ce que dit Christina, les façons de penser sont pas les mêmes. Et donc, nous, en tant qu'auteurs de polar, on se dit que les façons de mener des enquêtes non plus n'étaient pas les mêmes. On pouvait imaginer que telle mort était une punition divine, ou une punition des péchés à une époque chrétienne, ou autre. C'était pas forcément où sont les pistes, où sont les indices. Donc ça peut être aussi une difficulté pour l'enquêteur. Parce que si on fait un enquêteur trop rationnel, il sera pas dans l'état d'esprit de l'époque.
Oui, puisqu'on est 11 siècles avant Jésus-Christ, oui, hein, ouais, quasiment. Ouais. Donc, effectivement, le regard judéo-chrétien qu'on peut avoir prend un sens totalement différent. Jocelyne F. Keller, même question. Est-ce que, justement, quand on décide d'envoyer ces personnages d'aujourd'hui dans ce monde antique, déjà, est-ce qu'on se pose la question de savoir si on aura le matériau nécessaire pour, justement, nouer une intrigue? Est-ce que, dans la recherche, déjà, on essaye de trouver un peu les failles dans lesquelles on va pouvoir s'engouffrer?
Oui, c'est exactement ça, parce que moi j'ai pour cahier des charges dans Via Temporis de respecter l'histoire, en tout cas l'histoire telle qu'on la connaît. Donc je ne peux inventer, faire la fiction que dans ce qu'on appelle les méandres de l'histoire, c'est les zones sombres, les zones dans lesquelles bah, on ne sait pas. On sait que tel jour, par exemple, Néron était là, ou en tout cas a fait quelque chose, tel autre jour il était là, entre les deux on ne sait pas vraiment, et c'est là où on peut imaginer des choses. Dans Via Temporis 3, l'idée c'est, enfin je ne vous raconte pas l'histoire, mais le principe narratif, c'est que les héros doivent retrouver un talisman. Et pour ça, ils ont, avant même de faire leur voyage temporel, ils ont enquêté et ils se sont aperçus que c'est sans doute Néron qui le possède. Donc en fait, toute l'histoire consiste à comment vont-ils rencontrer Néron. Dans les séries télé ou dans certains romans, rencontrer un personnage historique très connu, ça se fait en deux pages et c'est très facile. Moi, je pense que dans la réalité, on cherche à être ultra réaliste, c'est extrêmement compliqué. Si aujourd'hui vous voulez rencontrer le président de la République ou une star du rock, c'est très compliqué. Sauf si vous la connaissez, vous êtes quelqu'un de votre famille, mais sinon. Donc l'idée, c'est comment on rencontre, dans le premier siècle de notre ère, comment on fait pour rencontrer Néron. Donc forcément, on va se baser sur des événements connus. On sait qu'à tel endroit, bah, il a été sacré empereur, il a fait ceci, il a organisé des jeux, il a fait tuer quelqu'un, on sait, voilà. Et donc, en fait, tous les épisodes vont être rythmés par ces dates historiques connues.
Là encore, c'est une petite différence peut-être par rapport à ce qu'on peut voir quand on va y revenir aussi avec Christina, mais il y a l'irruption, pas seulement de la pure fiction, il y a l'irruption aussi d'une réalité dont on est obligé de tenir compte finalement.
Oui. Alors après, c'est vrai qu'on est dans une période qui est mouvementée, sur laquelle il y a pas mal de polémiques. Moi, j'ai lu pas mal de bio et d'ouvrages sur Néron, sur la période. Et l'idée que j'avais, alors c'était pas d'écrire quelque chose de révolutionnaire, c'était juste d'adoucir le personnage un petit peu. Parce qu'on l'a fait passer pour quelqu'un de complètement fou, on lui a attribué à peu près tous les crimes du monde. Certes, il en a commis, certes, il a fait des choses qui sont absolument condamnables. Mais c'est pas lui qui a déclenché l'incendie de Rome, en tout cas, maintenant je suis absolument convaincu. Et je pense, alors ça c'est ma petite théorie personnelle, parce que je suis pas historien, j'ai pas la prétention d'aller plus loin que ça, mais après avoir lu beaucoup de choses sur lui, je me suis dit que finalement on pouvait expliquer peut-être Néron par la peur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a eu toute sa vie très peur, et quand vous avez très peur, quand vous vous sentez menacé, vous devenez tout de suite un peu parano et vous êtes prêt à commettre des choses qui sont des crimes, enfin des choses qui sont négatives. Il faut quand même se mettre en tête que Néron a été élu empereur à l'âge de 17 ans, c'est-à-dire aujourd'hui c'est l'âge d'un ado. Et que toute sa vie, il a craint, il était mort de trouille d'être assassiné comme beaucoup d'empereurs avant lui. Et donc, ça explique en petite partie certaines choses.
Philippe Roy, parmi les personnages principaux, il y a les dieux, puisque Lasserre est le détective, devient en tout cas le détective des dieux. Comment on met en scène, dans un monde alors qui n'est ni contemporain ni vraiment antique, mais comment on met en scène ces dieux présents, comme des, j'allais dire des citoyens à part entière, c'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas, il n'y a pas forcément une distance aussi évidente que ça entre les dieux et les humains.
On va dire que les dieux, chez nous, c'est un mélange de divinités égyptiennes et de pop stars, de people. C'est-à-dire, ce sont des dieux qui ont tous les pouvoirs, qui ont besoin des humains, parce qu'un dieu qui n'a pas d'adorateur, il va disparaître. Donc il a besoin d'avoir tous les croyants autour de lui, d'en avoir de plus en plus. Et donc pour cela, soit il doit aller piquer aussi aux autres dieux, parce que notre monde n'est pas aussi totalement égyptien, puisqu'on fait à peu près tout le bassin méditerranéen. Il va y avoir des guerres entre les dieux égyptiens, entre eux, déjà ça existait à l'époque, même si c'était dans les textes, mais entre les dieux égyptiens et les dieux grecs, entre les dieux égyptiens et les dieux babyloniens. Donc ces dieux, ce sont des personnes toutes puissantes, comme un dieu, mais qui ont besoin des humains pour pouvoir exister. Sinon plus d'humains, de croyants, mais ils vont disparaître. Et donc le but de notre idée, c'était d'avoir ces dieux qui se chamaillaient comme presque de chanteurs, de popstars, qui se battent pour avoir le plus de vendre le plus de disques possible. Donc pour nous, c'était ça.
Ils se jalousent.
Mais ils se jalousaient aussi dans l'Antiquité. Je veux dire que quand on regarde le panthéon égyptien, ou le panthéon grec, ou tous les autres, vraiment, ils se jalousaient comme les humains. Donc on a gardé cet aspect jaloux, Isis contre Seth, et on a mis aussi la jalousie entre Astarté et Isis aussi. Jalousie féminine, jalousie de Dieu. toujours le fait que moi je veux avoir plus de pouvoir que toi, moi je veux être plus riche que toi, moi je veux avoir plus belle voiture que toi, et moi je veux avoir plus de croyants que toi. Donc les dieux, c'est un mélange pour nous de dieux, de people et de divinités toute puissante.
Avec un côté un peu cartoonesque dans leur...
Ah oui, ça c'est le but de la serre. Comme je dis toujours, moi la serre c'est le mélange de Cléopâtre, du film Cléopâtre, du film Le Faucon Maltais, du film Vive la peau de Roger Rabbit. Vous mélangez ça, vous secouez très bien, vous avez ça. Pour moi, quand j'écris sur le dieu 7, je vois Ville Coyote. Dans mon idée, c'est ça. Et quand des fois, je n'ai pas d'imagination, mais j'ai toujours sur les chaînes cartoons de la télé, j'ai toujours tous ces cartoons qui me font rire, et je me dis, ah, peut-être, là, ça peut être une idée.
Il y a quelques loups de Tex Avery aussi, qu'on croit.
Il y a, voilà, le loup de Tex Avery, pour moi, c'est... Mais tout ça, ça faisait avec Sylvie, ça fait partie de notre imaginaire. Je veux dire, on a dit, un jour, on va écrire mon polar. Ah, c'est bien. Oui, mais on voudrait écrire sur l'Égypte. Ah oui, mais il faut de la fantaisie. Et bien voilà, c'est ça.
Et ça donne la serre, ce détective des dieux. Christina Rodriguez, puisque avec Jocelyne, on a parlé de Néron, oui. Il y a aussi un personnage assez important dans les polars qui mettent en scène le prétorien Caeso, c'est Caligula.
Jeune.
Jeune, oui. On a toujours l'impression qu'il a été jeune, Caligula.
Bah, il est mort jeune.
Oui, voilà. Donc c'est vrai que dire ça, c'est un peu... Mais il est aux antipodes de l'image qu'on peut avoir de Caligula, c'est-à-dire d'un empereur fou allié, cruel, violent. C'est un ado extrêmement sympathique chez vous.
Bah, c'est un ado bah, tel qu'était beaucoup d'ados, je pense. Non, mais il faut savoir que les gens qui faisaient... Il n'y avait pas d'historien à l'époque, comme on dit maintenant, c'est-à-dire... Les gens qui écrivaient l'histoire, Sénèque par exemple, je vais te montrer Sénèque pour l'instant, c'était souvent des nobles. J'ai peur qu'il y avait du temps à perdre, quelque part, à écrire les chroniques. Il n'y avait pas des gens qui étaient payés pour écrire l'histoire. Donc évidemment, ce n'était jamais... innocent. Donc évidemment, tous ceux qui avaient une maille à partir, avec que ce soit Néron, que ce soit Caligula, que ce soit Trajan, que ce soit Tibère, que ce soit qui que ce soit, ils réglaient leur compte lorsqu'ils faisaient ça. Donc il faut toujours prendre les sources bibliographiques et les comparer aux sources archéologiques. Et une fois qu'on a fait ça et qu'on a rajouté la notion humaine, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a l'humain derrière, il faut rester quand même un petit peu logique avec la mentalité humaine et les comportements humains. On arrive en effet à des choses, à des conclusions, je veux dire, qui sont évidentes.
Sauf que, comme vous le disiez tout à l'heure, on est quand même dans une période mouvementée. Ça complote dans tous les sens. Donc forcément, il y a pas seulement le regard qu'on peut avoir sur les personnages, il y a aussi les intérêts des uns et des autres. Pas seulement à la limite du personnage lui-même, mais finalement de ceux qui le soutiennent ou qui en tout cas ont envie de se débarrasser du prédécesseur, etc. Donc là aussi, il y a forcément une atmosphère propice à créer à la fois du malentendu et puis également de l'accident plus qu'accidentel.
Je vais me contrarier moi-même par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. On va s'imaginer que la Rome antique, c'est un peu comme les grandes sociétés, comme les politiciens maintenant, sauf que la noblesse romaine, bon, on l'a remplacée par les grandes entreprises du CAC 40. Quels ouvriers, c'est les esclaves, parce qu'on se voit la même chose. Et là-haut, ça c'est bagarre. En fait, c'est chacun pour soi, chacun pour sa poche.
Et au milieu de ça, bah, il y a ce KSO qui est un peu... Est-ce qu'il a un côté un peu héros antique? Mais là, je vais vraiment dans le côté presque mythologique.
Oh, je crois consciemment, tout à fait consciemment, oui, bien sûr, j'ai voulu en faire un héros, parce que c'est pas qu'il est parfait, mais bon, il est quand même intelligent, il est beau gosse. Voilà, bon, oui, on peut dire que c'est un héros antique.
Donc il a ce côté, justement... presque parfait. et effectivement, il ne laisse pas insensible les gens qu'il croise, finalement, y compris jusqu'à parfois l'ambiguïté.
Attends, on va mettre quelque chose de très... Moi, quand je lis un bouquin, je lis le soir en général. Je ne sais pas moi, je lis le soir. Moi, j'ai pas envie de me coucher le soir avec un mec de 60 ans qui a de l'eau en manche. Donc, je me suis dit, l'électrice, ça doit être pareil.
Bon, ben voilà.
Tu ne cherches pas plus loin.
Non, voilà. C'est très bien. Ça me va parfaitement. Béatrice, on a aussi chez vous des personnages qui sont plutôt un joli garçon et l'autre jolie fille.
Oui, alors les personnages, en fait, le garçon, c'était lui le héros quand même de l'enquête policière. Il va découvrir le secret de ses origines. Au début, il se croit fils de médecin dans un village.
Il est très jeune, hein, il a 14 ans.
Oui. Et ça, c'était un peu par rapport aussi au lectorat. Et puis, à 14 ans, on était un pré-adulte quand même dans des sociétés comme ça. Donc, voilà, c'est pas comme aujourd'hui, relativement protégé. Donc, lui, il va enquêter sur ses origines, il va lire plein de choses, il va être un peu tourmenté, il n'aime pas le futur métier qu'il est censé faire. Mais elle, pour le coup, Néférette, lorsque je l'ai créée, donc elle a à peu près le même âge, il va en tomber amoureux, pour moi, c'était vraiment l'archétype de l'égyptienne des fresques. C'est-à-dire ces ravissantes jeunes femmes aux yeux cerclés de kohl qui ont l'air heureuses et bien dans leur peau, qui sont des canons de beauté assez proches de la beauté actuelle, hein, parce que si on prend par exemple les femmes peintes par Rubens, ça ne nous parle pas trop, à nous, les canons de beauté ont beaucoup changé, les égyptiennes, elles sont assez proches de ce qu'on souhaiterait être, en tout cas ce que la société nous demanderait d'être, et elle est bien dans ses baskets, si je peux dire, d'égyptienne, c'est-à-dire elle est née du bon côté, dans une famille qui a des sous, et j'ai voulu en faire l'archétype de la jeune égyptienne, jolie, souriante, aimant la vie, future danseuse d'amour, etc., etc., qui va découvrir petit à petit que le monde... dans lequel elle vit est un peu plus compliqué que ce qu'elle imagine, quoi. Donc moi, quand je l'ai décrite, elle, je voyais vraiment s'animer les fresques des tombes, j'imaginais comme ça.
On évoquait tout à l'heure la difficulté de mener une enquête avec un regard d'aujourd'hui par rapport à cette époque très lointaine. Est-ce que c'est la même chose quand on essaye de créer des personnages d'adolescents en espérant quand même que les adolescents d'aujourd'hui s'y reconnaissent?
Alors, ce que je trouve difficile quand on crée un ado dans le roman historique en général, je ne parle pas forcément de l'Antiquité, c'est d'imaginer quelle est sa part d'autonomie. Ça, on peut le voir assez vite. Est-ce qu'il se mariait à cet âge-là? Est-ce qu'il était libre financièrement? Est-ce qu'il travaillait? Ça, on arrive à le trouver. Ce qui est plus dur, je trouve, c'est comment est-ce qu'on le considère et quels sont ses rapports avec les adultes. Ses rapports avec les parents, je donne un exemple tout bête. Là, il y a un roman que j'ai écrit dans les années 20, on sort de l'Antiquité. Est-ce qu'une jeune fille de ce milieu-là, vous voyez ses parents ou pas? La question saute, quoi. Est-ce qu'elle vous voyait ses grands-parents? En lisant les mémoires, par exemple, de Simone de Beauvoir, je me suis aperçue qu'elle vous voyait à 15 ou 16 ans ses amis de lycée. C'est ces questions-là, je trouve, sur lesquelles on peut se tromper en toute bonne foi, quoi. On sait à peu près à quel âge il se marie et à quel âge il travaille, mais toutes les relations sociales, comment était considéré un adolescent quand il débarquait quelque part dans un palais égyptien ou sur le forum grec ou romain ou dans un château au Moyen-Âge. Voilà, c'est ça qui est intéressant à faire aussi, parce que quand on arrive à le faire bien, ça dépayse d'autant plus le lecteur. Donc je dirais, il faut qu'il ait un caractère proche du lecteur, mais qu'il soit dans des situations dépaysantes pour que le lecteur soit... Ça fasse plaisir, quoi.
Et justement, quand vos jeunes lecteurs viennent discuter avec vous, leur regard sur ces personnages et sur la manière dont ils évoluent dans cette société qui est quand même très très différente de celle dans laquelle nous vivons.
Ah ben, c'est étonnant ce que disent les lecteurs. Des fois, il y a des trucs marrants, quoi. Alors, dans quel livre c'était celui-là? Je crois que c'est dans Les Noces Vermeilles, qui se passe à la Renaissance. Il y a une lectrice qui m'a fait un cadeau formidable. Elle m'a dit, avec un accent un peu comme Philippe, dans le sud-ouest, c'est « Ah, écoutez, Louise, quand elle parle à son chéri, on voit qu'il s'aime et on voit qu'il est vachement beau. » Alors, c'est génial, parce que le chéri, j'ai complètement oublié de décrire son physique. Mais elle s'est appropriée cette relation-là. Voilà. Tout ce qui est histoire d'amour, ça marche comme sur des roulettes. Par contre, les filles sont très souvent choquées, bien entendu, par les conditions féminines du Moyen-Âge ou de la Renaissance. Le fait des projets de mariage, alors ça, c'est normal, hein. Viscéralement, les jeunes filles, pourquoi elle n'a pas résisté? Pourquoi elle n'a pas... elle résistait comme elle pouvait, avec ses armes de l'époque. Toutes les filles n'étaient pas des Amazones en puissance, prêtes à monter sur un cheval et à prendre une épée, quoi. Donc voilà, c'est intéressant de montrer aussi comment on pouvait faire face à la société de son temps avec les armes qu'on avait.
Jocelyne, même question. Comment est-ce que, quand on s'adresse à des ados, on essaie de travailler ces personnages? Alors là, il y a des cas différents chez vous, puisqu'il y a à la fois des ados d'aujourd'hui, il y a des personnages beaucoup plus anciens. Comment est-ce que justement on arrive à faire qu'il y ait une identification qui puisse se faire?
J'ai envie de dire, toutes les remarques que les lecteurs de Béatrice ont faites sont un peu celles qu'ont mes héros dans les romans. C'est-à-dire que à tous les coins de rue, à chaque action qu'ils font, il y a toujours quelque chose qui va les stupéfier. Et ils vont se poser des questions. Ah bon, c'est comme ça? Ou ah, mais je m'en doutais pas. Et ils ont des surprises sans arrêt. Parce qu'eux arrivent avec leurs convictions, leurs connaissances, leurs idées, leur mentalité du 21e siècle. Et ils se trouvent plongés sous la Révolution française ou sous, les Templiers ou 2000 ans en arrière dans la Rome antique, et à chaque fois c'est une surprise. Au début de Via Temporis, ils ont plutôt tendance à, Via Temporis 3, ils ont plutôt tendance à penser que les Romains sont finalement des gens assez comme nous, jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur premier esclave. Et là, ils se disent non, les Romains ne sont pas comme nous, ils ont des esclaves. Et ça les perturbe beaucoup. Parce qu'ils vivent dans un monde quand même, France, 21e siècle, où la notion d'esclave, elle est complètement...
D'autant qu'ils arrivent dans cette époque lointaine, vraiment avec tous leurs codes, y compris jusque parfois à leur MP3.
Oui, c'est des ados d'aujourd'hui, ils ont tous les smartphones, lecteurs MP3, enfin, tout ce que les ados d'aujourd'hui ont. Et leur connaissance...
On capte bien dans la Rome antique.
Non, mais ils voyagent en fait dans le temps grâce à un instrument magique qui s'appelle le Tempoflux, et qui ressemble à un smartphone en fait, et qui permet de voyager dans le temps assez facilement. Et ils arrivent avec toute leur culture d'aujourd'hui. Et donc ils vont plaquer leur culture d'aujourd'hui sur les périodes qu'ils vont visiter. Et donc à chaque fois, effectivement, c'est des surprises sans arrêt. Et pour l'auteur, ça oblige à se poser des questions, mais à pratiquement chaque ligne. C'est-à-dire, est-ce qu'ils peuvent dire ça? Est-ce qu'à ce moment-là, ça existait? Et la grande terreur, c'est de faire des anachronismes. Alors, il y a des trucs évidents, mais il y a 2000 ans, on ne mangeait pas de pommes de terre à Rome. Ça n'existait pas. Alors ça, c'est un truc, on s'en doute un peu, mais il y a des choses beaucoup plus subtiles. Qui ont...
Pas un McDo, rien.
Non, pas un McDo, non. Il n'y a pas un flipper, pas un troquet. Enfin, il y avait des troquets. Il y avait l'équivalent de nos cafés au coin de rue. Et d'ailleurs, un des héros, à un moment, va boire un pot. Il rencontre une fille, c'est assez sympa. Ça oblige l'auteur à faire des recherches incroyables pour vérifier que chaque aliment qu'on leur propose existe ou pas à l'époque, chaque parole, chaque chose, ça demande beaucoup de documentation.
Philippe, dans la série La Serre, il y a un grand jeu, alors qu'on n'a pas encore tout à fait abordé avec les autres auteurs ici présents, mais nous on l'a déjà abordé à travers les dieux, c'est le jeu sur les mythologies. Finalement, parce que ça ne s'arrête pas juste à la présence des dieux, à leur chicanerie et tout ça. Ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ça, en particulier dans le deuxième tome.
Oui, je veux dire que déjà, les dieux et la mythologie, pour des auteurs, c'est fabuleux. Je veux dire, là-dessus, je veux dire, on a tous les personnages, ils sont déjà prêts. Je veux dire, Isis, on savait comment elle était, Osiris, pareil, Seth et tout. Je veux dire, pour nous, c'est simple. Mais après, on a voulu développer toute cette mythologie sur le bassin méditerranéen. Et après, c'était la mythologie aussi au niveau des villes, au niveau de la culture qu'il pourrait y avoir si l'évolution entre l'an 0 et l'an 1930, ça faisait une évolution toujours limite, c'est-à-dire une évolution où les dieux étaient encore là, où les dieux avaient le pouvoir. Donc on a essayé de mettre un monde mélange de technologie et de mélange aussi de spiritualité et mélange de magie facile. Parce que c'est vrai que quand ils y claquent des doigts, et il y a trois personnes qui disparaissent, ça vous la facilite. C'est, pour nous, là, c'était plus facile que pour tous les autres auteurs de romans historiques. C'est-à-dire que nous, l'aspect historique, on l'a simplement gardé dans les paysages, ou dans les routes, ou dans les trains, tout ça. C'est-à-dire qu'on a fait les mêmes recherches là, même au niveau de la nourriture, parce qu'on a même des recettes de cuisine, je ne vous les conseille pas. Même la pierre, bon, la pierre égyptienne n'existe plus, mais bon, elle devait être bonne. Mais aussi, par exemple, nos personnages, quand ils se déplacent, là-dessus, on avait les fameux, je ne sais plus comment il s'appelait, le guide anglais, le bête quelque chose, j'ai un tour de mémoire, le Michelin de l'époque, où en 1935, on savait qu'il y avait une horaire de train, à telle heure, qui partait d'Alexandrie, qui arrivait au Caire. Donc on a essayé à faire à la fois tout ce qui était vraiment terre à terre et tout ce qui était vraiment la mythologie. Et la mythologie, pour nous, ce qui nous plaît le plus, c'est de mélanger les mythologies. Je veux dire que ça n'existait pas, ça n'existe pas dans l'histoire, mais que Isis se bat avec Astarté, pour nous, c'est du grand plaisir. Que Zeus débarque dans un temple égyptien, ça, c'est du plaisir. Donc, on imagine comment Zeus pouvait arriver et parler à Isis.
Que la serre se retrouve aux enfers, par exemple.
Voilà, la serre va se retrouver aux enfers, parce que les enfers, c'était un lieu commun de toute mythologie. Je veux dire, que ce soit égyptienne, grecque, tout. Les enfers existaient, donc puisqu'ils existaient d'un partout, eh bien on envoie la serre aux enfers. Et comment on peut aller aux enfers? La seule solution, c'est de mourir. Mais s'il meurt, il n'y a plus d'héros. Donc notre histoire est finie. Donc là, on s'est cassé la tête. Hein. On s'est cassé la tête pour l'envoyer, pour comment il peut meurt pas et tout.
Il y a autre chose, c'est ce mélange entre justement cette société beaucoup plus contemporaine et ça donne par exemple un étonnant parc d'attractions.
Voilà, je veux dire, on s'est dit, il va à Babylone. Donc à Babylone, bien sûr, il y aura les jardins suspendus. Ça, c'est une obligation. Mais qu'est-ce qu'il pouvait y avoir de plus à Babylone en 1930? Eh bien, je veux dire, qu'est-ce que c'est aujourd'hui qui fait la star du tourisme? Eh bien, c'est les parcs d'attractions. Il y a des parcs d'attractions, il y en a partout. Eh bien, on va mettre un jardin, un parc d'attractions à Babylone. Ça, c'était très bien. Donc on a mis un parc d'attractions avec des manèges, avec tout ce qu'il faut.
Tout un fantôme.
Voilà, un fantôme et tout. Un grand 8. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, mais les parcs d'attractions, ça fait partie de notre mode de vie aujourd'hui. Et que pour ils pouvaient les avoir à l'époque.
Donc c'est vrai qu'on a.
Voilà, on a ce mélange toujours de mettre à la fois de créer une civilisation qui aurait pu être. Alors bien sûr, c'est totalement par moments farfelu, je veux dire, là c'est de l'invention pure et simple. Je ne pense pas que les parcs d'attractions auraient pu exister, mais on s'est dit pourquoi pas.
Non, il y a quelque chose de très drôle dans le train fantôme, c'est pas un hasard si je le citais, c'est que finalement il y a un des personnages qui est terrorisé dans le train fantôme et l'autre qui lui explique que, mais attends, on vit, on a des dieux, on croise des dieux à tous les coins de rue qui sont capables de te vaporiser en un claquement de doigts, et toi t'as peur dans un train fantôme.
Voilà, parce que je veux dire que même nous on a peur. Moi je dirais le grand 8 ou un train fantôme, même si je sais que ça n'existe pas, que c'est faux, mais je veux dire que par moments je peux avoir peur, comme je peux avoir peur que des fois quand je regarde un film. Je sursaute, je veux dire qu'Alien m'a fait sursauter. Je savais que ce n'est qu'un film. Je suis très sensible. Donc c'est pour ça, je veux dire, c'est des personnages qui sont dans les hommes et qui découvrent aussi notre civilisation. Je veux dire que la différence entre la civilisation égyptienne et babylonienne était à l'époque très différente, c'est la langue et tout. Et donc c'est vrai que ces gens qui, en 1930, ne voyageaient pas beaucoup, qui quittent l'Égypte pour arriver à Babylone, et puis ils sont un peu déstabilisés aussi. Notre détective, lui, a quitté la Gaule pour venir en Égypte. Il a été totalement déstabilisé. Il a mis du temps à s'adapter à cette nouvelle civilisation. Bon, il y a eu des personnages qui l'ont aidé, tout ça, mais il a mis du temps. Heureusement, il y avait quelque chose qui est universel, c'est le whisky. Une superbe alcool picte et qui existe vraiment. Et là-dessus, il a retrouvé...
C'est la potion magique.
C'est une potion magique, oui. Et donc, pour ça, il a retrouvé. Mais je veux dire qu'en Égypte, il a perdu tous ses codes qu'il avait en Gaule. Il s'est réadapté petit à petit. Et là-dessus, nous, en tant qu'auteur, on est obligé à penser aussi pareil. En Égypte, qu'est-ce que c'est qui nous changerait la vie? Que ce soit la cuisine, que ce soit les premières voitures, que ce soit les trajets, que ce soit alors je sais, mais la gêne tout, c'est le chameau et le dromadaire. Parce qu'on s'est trompé, là-bas, on parlait d'une chose, nous on s'est trompé, notre vie. Je ne sais pas si on avait un chameau ou un dromadaire en Égypte, mais on s'est trompé, là on a fait une faute. Donc voilà, c'est ça, monter sur un chameau, pour quelqu'un qui vient de Gaule, monter sur un chameau, mais c'est une expérience, il déteste ces animaux. Il est obligé pourtant d'y aller, parce que c'était le moyen de locomotion de l'époque. Et donc c'est tout ça, tout ce mélange, je veux dire, d'époques, aussi bien qu'il part de Gaulle, qui arrive en Égypte, après il part à Babylone, et après il débarque aux enfers. C'est-à-dire, arriver aux enfers, ça fout la trouille quand même. Mais notre détective, c'est vraiment l'archétype du détective, c'est pas le héros... C'est-à-dire que nous, on a gardé les détectives classiques, Philippe Marlowe.
Il n'est pas sans peur et sans reproche.
Il n'est pas sans peur et sans reproche. Il n'a pas 60 ans, il n'est pas venu.
Parce qu'on a gardé aussi. Mais il n'est pas héros antique non plus.
Il n'est pas du tout héros antique. Il ne bastonne pas du tout. Ça bastonne. Il se fait bastonner.
Alors, on était aux enfers. Avec Christina, on va remonter pratiquement, j'allais dire, au paradis, en quelque sorte, d'une certaine manière. Parce qu'on va quitter KSO et ses polars qui se passent dans la Rome antique. Et on va parler du dernier roman qui s'appelle Le baiser du banni. Où là, on est dans un thriller. Alors là, pour le coup, pas plus faire contemporain comme thriller. Et pourtant, voilà qu'arrive ce qu'on appelle, nous, aujourd'hui, avec nos codes, le fantastique. Mais finalement, ça va nous renvoyer à l'Antiquité, puisque il y a des anges.
On est en plein dans la Genèse, en fait. On est en plein dans la Bible. Et ça nous renvoie justement aux batailles célestes entre Lucifer et Michael.
Avec justement ce personnage de Lucifer. Alors, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure aussi sur des personnages historiques. C'est qu'on a une idée de Lucifer dans un imaginaire collectif qui est finalement extrêmement différente de ce qu'on peut trouver dans des sources autres et qui décrivent un personnage qui n'a finalement rien à voir avec le diable à sabot de bouc et à queue fourchue.
Lucifer, il a un avantage, je dis ce personnage, alors pour certains c'est de la religion, pour d'autres c'est de l'histoire, on ne va pas débattre là-dessus, mais il a cet avantage qu'on peut lui donner un peu la tête qu'on veut. Parce que soit on se décide de dire, c'est le diable, il a une sale tête, il a des cornes, et puis il a un visage à la place des fesses, et puis voilà. Soit on peut se dire, Lucifer, allez, on prend le nom latin, ça veut dire le porteur de lumière, et c'est le plus beau des anges. Donc moi j'ai pris la deuxième option, ne me demandez pas.
Voilà. Et le roman commence par une découverte archéologique, oui. Donc finalement ça nous renvoie effectivement à l'Antiquité, qui fait le buzz, c'est vraiment ça, c'est que d'un seul coup toutes les chaînes infos du monde entier se mettent en boucle parce qu'on a découvert...
Un truc complètement dingue, on a découvert des anges fossilisés en Chine.
Comment ça vous est dit?
Je sais plus ce que j'avais fait ce jour-là. Ce que j'avais vu, non, je sais pas comment, franchement, des fois là-dedans ça doit pas tourner très clair, quoi, tant de trucs qui...
Parce que, en gros, pour expliquer, on a donc un corps, enfin un squelette, sauf qu'effectivement, ce squelette, on voit bien qu'il y a manifestement
des ailes
derrière.
Il y en a deux qui sont en pleine, en fait.
Et la grande question, c'est est-ce que c'est la plus grande découverte archéologique de tous les temps ou un canular de très mauvais goût?
Et là, en effet, ça va déclencher tout un tas d'événements à travers le monde.
Quelle était votre volonté en mettant des anges en scène, finalement, dans un thriller contemporain?
Ça faisait très longtemps, en fait, que je voulais écrire un roman fantastique. Et Lucifer et Michael, moi, ça date de l'époque... J'ai encore raconté ma vie. Ça date de l'époque où j'étais petite, c'était il y a longtemps. C'était en Espagne, dans la chambre de mon grand-père, il y avait une chapelle. Et les statues des églises, c'est pas comme ici où c'est blanc, c'est joli et tout, c'est vraiment peint. Elles ont les costumes à l'antique avec. Et à l'entrée de cette petite chapelle, il y avait Michael et Lucifer qui se battaient à l'épée. Et c'était deux anges magnifiques, un peu justement héros antiques, avec les cheveux blonds, l'épée. Et moi, je vous avoue, quand j'allais à la messe, je regardais plus derrière que devant. Et je m'étais toujours dit, tiens, un jour il faudra. Je m'imaginais en fait ces histoires-là. Et je pense que depuis toute petite, ça m'a travaillé. Et ça faisait très très longtemps que j'avais envie d'écrire.
On va en reparler dans quelques instants. Béatrice et Gemma, on est avec vous donc dans l'Égypte antique. Et vous adressez à un public adolescent, est-ce que ça veut dire qu'il faut faire attention à ce qu'on raconte? Oui, forcément, mais est-ce que ça demande un effort pédagogique particulier?
Alors, pour l'Égypte, je trouve pas.
Plus ou différent que par rapport à un public adulte aujourd'hui?
De manière générale, écrire de l'historique pour des ados, des enfants, par rapport à des adultes, il faut se demander qu'est-ce qu'ils connaissent de la période en question. Le plus compliqué que j'ai fait, c'est quand j'ai écrit sur la Renaissance, les guerres de religion et la Saint-Barthélemy, où là, je ne savais pas ce que savait mon lectorat. Parce que je savais pertinemment que ce livre serait certainement lu dans des collèges et des lycées, imposé, entre guillemets, par le prof, que là-dedans, il y a des lecteurs qui seraient des boulimiques d'histoire et d'autres qui seraient allergiques. Donc je ne pouvais pas poser dans le chapitre 1, Catherine de Médicis, Gaspard de Coligny, le duc d'Anjou, comme si j'écrivais pour adultes. Parce que si j'écrivais ça pour les adultes, ceux qui iraient acheter ce livre, c'est des gens qui aiment l'histoire et qui veulent avoir des détails compliqués, quoi. Sur l'Égypte, je dirais qu'on est quand même assez gâtés parce que les enfants savent ce que c'est qu'une pyramide, savent en gros ce que c'est que la civilisation égyptienne, ils savent qu'ils ont des pagnes, ils savent qu'ils n'ont pas de voiture, enfin voilà quoi. Donc, même le vocabulaire, les calames, l'instrument d'écriture, le papyrus, c'est des choses qu'ils connaissent un peu. Donc, je dirais que je n'ai pas trouvé de difficultés ou de contraintes énormes dans ce roman-là, du fait qu'il était pour des ados et pas pour des adultes.
Ce qui permet après, effectivement, de développer une intrigue où, justement, on essaye un peu de semer le lecteur en route en lui tendant des choses trappes.
Oui, du coup, on peut rendre l'intrigue un peu plus complexe, quoi. Pour moi, l'essentiel, le caractère ado essentiel de ce roman, c'est surtout l'âge du héros, quoi. Sinon, l'intrigue en elle-même, jusqu'à présent, je n'ai pas tellement de lecteurs adultes qui ont trouvé qui était l'assassin, donc on est content. C'est quand même une preuve que ça fonctionne à peu près. Donc celui-là, voilà, il se trouve qu'il était dans une collection pour ados, mais bon, à la limite, si j'avais vieilli le gars...
C'est même les assassins, si je peux me permettre.
Voilà.
Parce qu'il y a plusieurs meurtres.
Spoiler.
Jocelyne, là aussi, même question finalement qu'à Béatrice, est-ce qu'on est obligé, forcément, quand on s'adresse à un public jeunesse, de tenir compte des connaissances qu'ils peuvent avoir?
Ah oui, je pense absolument. Nous, le cœur de cible de Via Temporis, c'est 10-13 ans, donc c'est relativement jeune, et on est parti du postulat que nos jeunes lecteurs ne savaient pas grand-chose des périodes historiques qu'on allait évoquer. Donc, on leur explique beaucoup de choses, on repose les bases en termes de c'était il y a longtemps, oui, mais quand exactement. Il y a tous les chapitres, par exemple, ont des dates précises pour donner des localisations précises aussi de l'action, des lieux. Et en même temps, c'est pas du tout, on n'a pas du tout envie de faire un cours. On s'était dit, si on tombe dans l'écueil de faire du scolaire, on a tout raté. Et le plus grand compliment qu'on puisse avoir, c'était, je l'ai lu, j'ai beaucoup aimé l'histoire, et j'ai appris plein de trucs sans m'en rendre compte. Le sans m'en rendre compte est vraiment hyper important. C'est-à-dire qu'en fait, on apprend beaucoup de choses sur les périodes traversées, mais dans l'action de l'histoire, parce que ce sont quand même des romans, c'est de la fiction avant
tout. Ah, c'est le romanesque qui doit primer.
Le romanesque doit quand même primer, c'est ce qui entretient le plaisir de la lecture. Et si au passage, on apprend des choses en plus sur l'histoire, et que finalement on donne le goût de l'histoire à nos jeunes lecteurs, on a réussi le pari.
Est-ce que justement, vous en avez rencontré certains qui se sont mis à s'intéresser d'un peu plus près aux périodes que vous abordez,
oui,
à travers Via Temporis?
Notre fan numéro 1 qui s'appelle Sacha, il a 10 ans. c'est un gros lecteur, il lit des livres de 300, 400, 500 pages. Et il ne fait pas que ça, hein, c'est pas juste un lecteur. Et lui, oui, il s'est passionné pour l'histoire parce que c'était pas un domaine qui l'intéressait particulièrement. Il était plus dans le fantastique, des choses un peu vraiment de l'imaginaire pur. Et maintenant, ce qui l'intéresse, c'est quand le fantastique et l'imaginaire se mêlent à la réalité. Et ça, c'est intéressant.
Il est très précoce.
Oui.
Il a déjà.
Il tient même un blog littéraire. Vous voyez.
Ah, voilà. Il m'a dit donc. Philippe. Ce monde antique, puisque là pour l'instant il y a deux tomes de la série, un premier où il y avait cinq grosses nouvelles, hein, oui, si je ne dis pas de bêtises, et puis le deuxième qui est vraiment un roman, sans rien révéler, on sait à la dernière page du deuxième à quoi on va s'intéresser pour
l'Atlantide.
Le troisième volet.
L'Atlantide.
Ah bon, bah, si tu le dis.
Je le dis, non, parce que ça sera le titre même. Parce qu'au terme, on s'intéressera à l'Atlantide, parce que vraiment l'Atlantide c'est. En plus, 1930, c'est une époque qui intéressait beaucoup de personnes de l'Atlantide, qui était revenu à la mode. L'Atlantide, c'est aussi le mythe de Platon, je veux dire, c'est resté. Je veux dire que même pour certains, les Atlantes se seraient battus contre les Égyptiens. Donc pour nous, l'Atlantide, c'était obligé d'y revenir.
Moi, c'est quelque chose qui m'a surpris dans la transition entre les deux premiers tomes. C'est qu'effectivement, dans le premier volet, la serre, c'est vraiment l'archétype à la Marlowe, du détective un peu paumé. Dans le deuxième, c'est Indiana Jones. Hein.
Oui, parce qu'il évolue, je veux dire, comme toutes les personnes, on évolue au fur et à mesure de la vie. Je veux dire qu'il a pris, dans le premier volume, il a pris des coups de tout le monde. Il a réussi à devenir le détective des dieux, c'est-à-dire avoir une certaine renommée, donc il a pris un peu de prestige. Il a, dans le début du tome 2, il a une belle voiture, donc ça remonte le prestige. Il va donc enquêter, super enquête. Il va prendre des coups, il va être bien, et surtout il va avoir des amis qui vont être autour de lui, qui vont lui remonter le moral. Et à partir de là, c'est comme quand on est au bas, on ne peut faire que remonter. Donc lui, il peut faire que remonter, motivé, et il va partir à l'aventure.
Puisqu'on parle de l'Antiquité et que l'Antiquité ça déménage, on ne peut pas ne pas dire un mot d'un personnage clé du deuxième volet qui est Médée.
Pareil, Médée, c'est même pas l'Antiquité. Médée, c'est ce qu'on appelle toujours dans les romans détectives des années 30, c'est la femme fatale.
C'est la vampe.
C'est la vampe. Et pareil, je veux dire que pour nous, quand on est parti dans cette histoire de détective, dans le 1, elle n'est pas, mais dans le 2, elle s'est imposée à nous. La femme fatale, on la retrouve dans tous les romans du polar des années 30 en anglais, mais en français, il y a toujours une femme fatale. Et c'est toujours une femme fatale qui est toujours ambivalente. Elle n'est jamais totalement méchante, elle n'est jamais totalement bonne. Et elle a toujours quelque chose qui fait qu'elle bascule d'un côté et de l'autre. Et donc, on va dire pourquoi Médée est toujours là. Et bien sûr, Médée, elle va vampiriser, je dirais, la scène. Pour lui, c'est un homme, il va trouver une beauté là qui est là, et bien il va tomber sur son charme. Mais c'est vrai que je dirais que Médée n'est peut-être pas une héroïne de l'Antiquité pour nous. C'est vraiment la femme fatale.
Oui, mais elle s'appelle pas Médée pour rien.
Non, ça ne s'appelle pas Médée pour rien, bien sûr, parce qu'on a toujours resté, on est toujours resté dans cette identité. On ne pouvait pas l'appeler Jessica Rabbit. Mais je veux dire que moi, pareil que j'ai mis Coyote, j'ai Jessica Rabbit à la tête quand j'écris sur Médée. J'ai la robe pendue derrière. D'ailleurs, dans le tome 2, on la voit bien aussi, l'illustrateur de la bien rendue. Mais c'est ça. Mais c'est vrai que dans l'Antiquité, les femmes étaient. Il n'y en avait pas beaucoup. Vraiment, il y avait des déesses, et des demi-déesses. Médée, pour nous, c'était vraiment la demi-déesse qui fait presque le lien entre les dieux et les humains. Elle est au milieu. Et elle aussi, je veux dire qu'elle n'est pas une déesse, elle n'est pas une humaine, donc ils sont mal dans leur peau. Et ces fameux demi-dieux de l'Antiquité, je pense qu'ils devaient être mal dans leur peau. Parce qu'ils n'avaient pas le pouvoir des dieux et parce qu'ils n'étaient pas non plus humains.
C'est un peu le cas aussi avec Amer, le djinn.
Voilà, mais pareil, Amblegie, là aussi, on a...
Qui ne rêve, lui, que d'aller s'installer en Égypte pour être tranquille.
Voilà, je veux dire, Amblegie. Alors, pareil, on a, là aussi, on a hésité. Les djinns, c'est plus dans le monde arabe. Mais on a dit, on laisse tous ces personnages. Parce qu'ils apportent plus. Ils ne sont pas humains, ils ne sont pas dieux, ils sont des créatures. C'est de, alors, c'est, je veux dire que nous, n'oublie pas, il y a le polar, il y a l'Égypte, et il y a la fantasy. Donc, on a voulu avoir... On pouvait pas, pour l'instant, on n'a pas encore pu mettre d'elfes, pas encore pu mettre de lutins, de tout ça. Donc on a mis un djinn, parce qu'un djinn, c'était vrai, il tombait bien dans la Babylone.
Et en plus, il a du génie.
Il a du génie, voilà. Puis après, il y a aussi les tapis volants.
Avec, aussi, ça a été, avec bon. Une course-poursuite que je, voilà, que je recommande.
Je veux dire, pareil, dans tous les romans policiers ou les films policiers, vous avez la course-poursuite en voiture. Mais nous, ça revient pour...
Ah ben là, c'est Star Wars.
Voilà. C'est Star, oui, voilà, c'est Star Wars. Oui. C'est une bénure, la course autour de bénure.
Christina, la lutte entre les anges, qui est finalement au cœur de ce thriller, même si c'est aussi un peu plus complexe que ça, elle n'est pas une lutte basique du bien contre le mal, c'est un peu plus complexe que ça.
Non, on n'est pas du tout dans ce contexte-là, on est dans une façon de voir le monde. Et c'est une dispute en fait entre ces deux archanges, entre Lucifer et Michael, sur la façon dont l'humanité doit évoluer. Alors du côté de Lucifer, il est partisan du laisser-faire à laisser-aller, c'est-à-dire de la sélection naturelle. On laisse l'humain être tel qu'il est, on le laisse avec ses instincts, on le laisse avec ses envies. Les faibles crèvent, les forts restent, et on voit ce que ça donne. Du côté des Michael, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est de la sustana. Il faut aider, il faut donner des règles, il faut entourer. Et c'est justement ces deux façons de voir les choses qui ont donné lieu à cette guerre.
Ce qui est très étonnant, c'est qu'il y a un absent dans cette histoire. C'est Dieu. Il n'est absolument pas là, pas concerné du tout.
Dieu, c'est une entité. Ils le disent eux-mêmes, les archanges le disent eux-mêmes. Dieu, c'est une espèce d'entité créatrice, voilà, folle quelque part. Ça produit, ça crée. Sans raison ni mesure.
Donc on casse complètement les codes, on casse les repères, là encore judéo-chrétien comme on disait tout à l'heure, et on est vraiment dans autre chose, tout ça servi par alors un thriller qui va mais à 200 à l'heure. Hein. Ah oui, non, je le dis honnêtement, c'est vraiment un plaisir de lecture. Ils ont quand même un côté spectral, ces anges parfois.
Oui, parce que là, on les voit pas. Oui, je peux rien dire, je passe le truc.
Mais c'est vrai qu'ils ont, voilà, faut pas s'attendre non plus, même si au départ on découvre un squelette qui a effectivement peut-être l'image.
On les voit au tout début du livre, on sait à quoi il ressemble, à quoi ressemble Lucifer dans les premières pages.
Il m'a rappelé le squelette, il m'a rappelé un film qui s'appelle Dogma, je sais pas si c'est.
Oui, à un moment on voit une scène où il y a en effet un
ange, voilà, exactement, avec les ailes un peu tordues.
Oui, c'est vrai.
Et puis en plus, il se les rogne, enfin, c'est abominable. Je vous conseille, c'est très drôle. Béatrice et Gémard, pour conclure justement, est-ce que c'est une piste que vous allez creuser, cette antiquité égyptienne? Est-ce que vous avez envie d'y revenir sous une forme ou une autre?
Là, je suis bien occupée à deux autres choses, puisque j'écris à la fois un roman ado sur Picasso et les peintres au début du XXe siècle, et début d'une série adulte sous Louis XV. Donc, dans les deux ans, non. Mais justement, comme je passe au polar historique adulte, je me dis j'aimerais bien faire des polars historiques égyptiens pour adultes. Ouais. J'exclus pas.
D'accord. Ouais.
Peut-être avec une héroïne féminine, ce qui n'est pas le plus facile.
D'accord. On vous réinvitera pour en parler, alors.
Oui, avec plaisir.
On verra ça. Pareil, même question, est-ce que, même si on a bien compris que c'est à chaque épisode sa période, est-ce qu'on peut imaginer, bah, tiens, par exemple, pourquoi pas, un via temporis en Égypte?
Ah oui, bien sûr. On avait listé au début du projet un certain nombre d'épisodes historiques de périodes qu'on voulait traiter, et l'Égypte en faisait partie. Alors après, vous dire ce qui va se passer, pour l'instant, il y a une idée sur le quatrième. Ça dépend aussi de l'éditeur. Il a mis un peu la collection en stand-by pour un tout petit moment, parce qu'on est en fait sur d'autres projets, mais on va repartir sur Via Temporis bientôt. Et moi, je travaille en ce moment, là, je vais commencer un gros sujet sur des histoires inexpliquées. J'ai envie de traiter, de faire plaisir. C'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis très très longtemps. Ressortir des affaires, des dossiers, de choses totalement inexpliquées, mais extrêmement bien documentées. Donc, pas des légendes, pas des rumeurs, des choses sur lesquelles on a beaucoup d'informations, on n'a aucune explication.
Philippe, ben, on l'a compris, donc direction bientôt l'Atlantique.
Voilà, un duo qui reste sur la tasse d'huile, et puis un solo, je veux dire, pendant 40 ans, j'étais passionné par l'Égypte, c'est deux ans, je découvre un matin.
C'est,
c'est totalement différent. Là, je me suis dit, Philippe, tu as changé. C'est pas totalement différent.
Les pyramides, on n'a pas la même forme.
Ouais, pas la même forme. Et c'est vrai que je suis tombé amoureux de Manhattan comme j'étais tombé amoureux d'Alexandrie. Je sais, j'ai vieilli. Donc, il y aura l'Atlantique de la Serre à Tomate.
Voilà. Si vous ne vous disputez pas avec Sylvie.
Non, normalement, ça devrait aller. Mais vous venez de, demain à midi, il y a le café littéraire,
et oui, exactement.
Mais écrire à 4 mètres, c'est différent.
Enfin, là, on sent quand même que vous êtes bien amusés, là, tous les deux.
C'est du plaisir. Bon. C'est du plaisir à 100% d'écrire là-dessus. On rigole, et on rigole même en faisant des jeux de mots, tout ça. Et aussi, est-ce qu'on le laisse ou est-ce qu'on le laisse pas?
Les clins d'œil, les camarades qui se retrouvent malgré eux, embringués.
Pour moi, je veux dire, après le travail, l'édition et tout ça, je veux dire, écrire avec Sylvie, la Serre, c'est
eh ben, on attendra avec impatience la sortie du troisième tome, mais pour patienter, il y a déjà les deux premiers. Il y a également les romans de nos autres auteurs ici présents. Vous voyez, on a voyagé dans cette antiquité, pas seulement, on est même revenu dans des périodes qui nous concernent un petit peu plus, mais vous voyez qu'on peut traiter ces sujets de manière extrêmement différente les unes des autres. J'espère qu'on vous a donné envie non seulement d'aller poursuivre les discussions sous la bulle du livre, et puis également effectivement de lire les auteurs... d'acheter les livres et puis de continuer à rêver et à voyager dans le temps et dans l'espace à travers ce que vous proposent nos auteurs. Merci beaucoup.
Merci.
Mais merci.
Merci à toi.